Bienvenue au podcast Upica, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? C'est le début de ma séquence de recevoir des athlètes qui ont participé aux Olympiques de Paris. Et je commence avec Thomas Fafard, qui a fait le 5000 mètres, qui a fait la finale du 5000 mètres sur piste aux Olympiques. On parle de son expérience aux Olympiques. Évidemment, on parle de l'entraînement qu'il a fait pour le mener jusqu'aux Olympiques. Comment est-ce qu'il s'est rendu à, en dedans d'un an, de penser que les Olympiques, c'est un rêve lointain jusqu'à crime. OK, on check quelle course il faut faire pour se qualifier. Il nous parle de son programme d'entraînement. Il nous parle de ses training clés. Il nous parle d'une semaine type de training. Bref, un retour aux sources du Upica Podcast. Si ça vous intéresse, la course de fond, vous êtes à la bonne place. Parce que là, Thomas nous dévoile tous les secrets de la caramilk. Il y a un secret qui est dur à dévoiler, par exemple, c'est comment tu peux être aussi vite que ça, là. Ça, même si vous avez les tips and tricks d'entraînement de Thomas puis de coach Lapointe et de tout son programme d'entraînement, ça veut pas dire que vous avez la machine pour faire ça, mais c'est quand même cool de l'apprendre pour pouvoir l'appliquer après ça à son propre entraînement. Excellent podcast, j'adore ça, parler à des athlètes, c'est vraiment le podcast du Pika, là. C'est un passion project qui rejoint des gens. Vous êtes tout le temps de plus en plus nombreux à nous écouter. Fait que merci pour ça. Et parlant du Pika, ça commandite le podcast. C'est ce qui propulse le podcast. C'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance, ma compagnie que j'ai fondée. On a un produit pour pendant la performance, le Upica Endurance. On a un produit de récupération, le Upica Récup. Et il y a des choses qui s'en viennent que je ne veux pas vous parler, des nouveaux produits, des nouvelles gammes complètes, des trucs qu'on est en train de tester en ce moment, au moment où est-ce que je vous parle. Fait que restez à l'affût pour la suite des choses. Puis si vous voulez essayer les produits, utilisez le code Upica Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, bon podcast avec Thomas Fafard. Cool, c'est parti, man. Fait que merci d'être là.
Merci à toi.
Yes. Tu reviens de un genre de deux semaines de chillage?
Ouais, exactement. Une petite deux semaines de off-season qu'on appelle. Puis ouais. On profite de la vie. On en profite. On fait des petites sorties, un peu de vélo, un peu de tout et de rien.
Là. Ouais. T'es bon parce que je t'ai écrit quand même la semaine après les Jeux. Là. Puis tu m'as dit, hey, écoute, je me suis dit que j'allais rien me planifier ces deux semaines-là, fait que je préférais qu'on retarde ça un peu. Moi, je suis pas capable de faire ça. Fait que mettons, je t'ai dit, hey, là, je prends deux semaines de vacances, puis finalement, j'ai 14 appels Zoom, deux enregistrements, deux allers-retours à Montréal, puis je suis incapable de faire ça. Là, toi, c'était-tu conscient de faire, hey, là, rien? Là?
Ben, j'ai eu un été assez chargé, puis ça l'a pas arrêté, fait que j'avais pas le choix de... Je me suis dit, bon, si tu prends deux semaines... J'essaie de faire le moins possible. Il y avait des choses que j'avais pas le choix de faire, mais ouais. Je me suis dit là, si t'es capable de prendre un deux semaines, essayer de décrocher un peu puis pas trop penser non plus à la course. Puis
ouais.
Parce que quand la saison roule, on est
juste là-dedans.
Exactement. On se couche le soir, on pense à ça, on se lève le matin, ouais. On pense à ça. Puis surtout dans ma situation avec le classement mondial, c'était quand même stressant. Avec ouais. À tous les jours, je me réveillais dans la nuit puis je regardais le classement mondial, voir s'il n'y avait pas bougé. Puis
ouais.
Fait que je pense qu'un coup que toute la pression est retombée, j'étais comme deux semaines décrochées, penser à faire tout sauf courir, ça va être nécessaire.
Ouais. Je veux qu'on continue ce sujet-là, mais là, je vais faire une parenthèse. Puis c'est souvent ça que je fais, là, parce que là, tu parles du classement mondial, là. Toi, dans le fond, c'était basé sur le classement mondial, la sélection pour les JO?
Dans le fond, il y avait deux façons de se lancer. Soit qu'on faisait le standard automatique, ouais. Qui était 13-05-00. Ou bien il y a un système de classement mondial qui marche avec des points. Certaines courses ont certaines classifications qui donnent des points dépendamment de ton classement dans la course.
Ouais.
Puis, dans le fond, moi, j'ai passé avec le classement mondial. Puis je pense que j'ai été 41e sur 42e, okay. Finalement. Ouais. Donc, ça a été assez chaud. Puis finalement, il y a certains pays qui décident de ne pas envoyer des athlètes qui ne font pas le standard.
Il y en a qui sont comme sur la ligne qui rentre, là, un peu comme la liste d'attente en médecine. Là,
exactement. Je pense que je j'étais ranké 36e sur 42. Partant, donc il y a quand même quelques...
Mais ça, c'est fou parce qu'en plus de stresser pour tes propres performances, tu stresses pour les performances des autres. Là.
Ouais, c'est
quand il y a des compétitions que toi, t'es pas, t'es comme, tu regardes les résultats avec une boule dans le ventre quasiment.
Oui, clairement. Puis dans le fond, le système de classement mondial update chaque mercredi à midi.
Ouais.
Donc là, c'est sûr que je regardais dans la nuit puis ça servait pas à grand-chose.
Non, exact.
Le classement, il n'allait pas s'updater, mais c'était juste... Ça me faisait du bien de voir que
mais ça reste stressant quand même. Là. C'est comme un stress de plus là, sur une longue période.
Oui, quand même, puisque c'est quand j'ai couru 13.5.07 à partir de ce moment-là qu'avec Félix, on a fait « Ouais, ben peut-être que t'as quand même une bonne shot de te lasser finalement. » Donc, c'est là qu'on s'est mis vraiment à penser que « Aïe, aïe, quelle course qu'il faut faire pour que j'aille chercher justement. » Parce que pour se classer dans le classement mondial, ça prend 3 performances.
Quoi,
2, 5000, 1, 3000 mètres. Puis là, il me manquait une troisième perf. Puis là, on cherchait partout quelle perf que je pouvais aller chercher qui était le plus avantageuse.
Ouais.
Puis c'est là qu'on est sorti avec l'idée du 3000 mètres à Vancouver.
Ouais.
Qui était un peu une course donnée, si on veut. Le calibre n'était pas nécessairement présent.
Puis il y avait des points qui étaient quand même accessibles.
Exactement, ouais. Il y avait quand même des bons points. Là. Ça a été ma meilleure performance, en fait, là, dans mon classement.
Ouais.
C'était ma première. Donc, je pense que Félix a vu juste. Puis Charles Philibert aussi qui a poussé fort pour que le meet director ajoute un 3000 mètres.
Ouais, OK.
Quand même avec un court délai.
Jouer pour l'équipe, là.
Ouais. Puis Chuck a fait aussi le rabbit là-bas. Donc, il m'a quand même donné un
petit coup de main.
Ah, ouais, un gros coup de main parce que faire un 3000 tout seul, ça. Tu sais, je pense pas que j'aurais fait. Je pense que j'aurais pu faire un 7,45, 7,46, mais rien de. Je crois que j'avais fait 7,41 à Ridge Rome. Donc, tu sais, j'aurais pas été capable de sortir un 7,41 tout seul.
Ouais, c'est ça. On va en reparler justement de ces distances-là puis d'effort maximal là, plus tard quand on va tomber un petit peu plus geek. Là. Mais là, juste pour revenir à tes deux dernières semaines, sans trop penser à la course, mais t'as quand même, j'imagine, été capable de faire une genre de rétrospection de ce que tu venais de vivre, là, de l'année et surtout du point culminant qui était les Jeux, là, j'imagine.
Ouais, effectivement, c'est sûr que... T'sais, les deux, trois premiers jours, on dirait que j'étais encore sur le high quand je suis revenu. J'étais supposé faire des courses en Europe après, puis dans la course, je me suis fait...
Comme le Diamond League, là.
Exactement, ouais, c'est ça qui était prévu.
Les gars sont là, il était là, Charles puis
Jean-Simon.
Exact,
Charles, sa saison n'est pas terminée. Jean-Simon a couru le Diamond League de Silesia le week-end dernier. Les deux gars ont fait aussi un mile en Europe. Moi, j'étais supposé faire ça.
Ouais.
Mais finalement, dans la course...
Vas-y, non, excuse-moi, j'allais tousser.
Dans la course, je me suis fait une petite entorse là, en finale. Donc, c'est sûr que ça l'a mis fin à la saison. On n'a pas pris de chance. Ça sent à rien de pousser un peu.
Ouais, c'est ça. C'était
sur une
fini.
Là, c'est comme, j'ai déjà eu une saison de rêve. C'est rendu là, j'avais tout à perdre, si on veut. Donc, on a décidé de prendre un off. Puis, c'est sûr que les deux, trois premiers jours, le high, cérémonie de fermeture, grosse performance. Puis après ça, ça l'a retombé. J'ai quand même été fatigué. On dirait que toute la pression a retombé.
Ouais.
Fait que pendant une semaine, ça a quand même été un petit peu plus dur. Là, fatigué. Puis je faisais absolument rien. Pendant une semaine, j'ai vraiment rien fait. J'ai fait du divan, j'ai regardé Netflix. Puis,
ce qui est aussi difficile quand même pour des gens actifs, là.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est sûr, là, ma copine, elle m'a entendu un petit peu aussi, pas mal, tout l'été, puis elle avait hâte que j'arrive, que je prenne mon off, qu'on fasse du camping. Puis
là, t'es défoncé,
exactement, la première semaine, c'est comme, hey, ça me tente pas, là. Fait que ça...
Puis en plus, j'ai envie de rester en dedans, quand il fait soleil dehors,
exact,
quand il fait beau.
Exact, on a attendu toute la semaine pour aller faire du camping, puis quand c'était le moment d'aller faire du camping, il mouillait, finalement, les plans ont changé, mais... Ouais, j'ai eu le temps de penser à ça. Puis finalement, tu sais, toute la saison, tout le build-up vers les Olympiques, c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, je pense que ça va être dur à côté quand même comme émotion. Là, tu sais, signer un contrat pro aussi cette saison.
Ouais.
Première Diamond League, fait 7,40 sur 3000 mètres. 13,05 sur 5000. Ensuite, faire la finale au jeu, c'est un peu...
c'est fou, là.
Pas complètement impossible, mais tu sais, ça prenait un scénario assez rock'n'roll, puis c'est ça qui est arrivé, puis j'en ai profité. Puis tu sais, le rendu en finale, c'est pas la perf que je voulais, mais quand même, là, juste le fait d'être.
Une fois que t'es rendu là, c'est quand même déjà fou. Là.
Quand même incroyable. Marcher, rentrer dans un stade de 80 000 personnes, c'est quand même quelque chose qui est dur à décrire.
Ouais. Je veux revenir sur l'expérience des Jeux, mais avant ça, moi, pour avoir fait une coupe de cycle olympique, sans évidemment me rendre jusqu'au jeu, mais mes jeux étaient la sélection olympique, parce qu'en natation, ça, ça fonctionnait, qu'il y avait la sélection olympique, puis que tout le monde qui était pas top 3 mondial, c'était ça, il piquait à ce moment-là, tu sais. Puis il y avait deux choses qui arrivaient. Quand on revenait de ça, soit on revenait de la sélection olympique, complètement burned out, comme complètement brûlé, plus aucune énergie, plus envie de repartir pour un autre 4 ans, puis qu'on avait besoin de longues vacances, ou on revenait avec le couteau entre les dents parce qu'on était un peu laissé sur notre faim, ou du moins galvanisé, c'est ça le mot? En tout cas, on était au crinqué par nos performances et l'année qu'on venait de vivre. Puis on se rembarquait déjà quasiment la semaine après. On était dans l'eau en train de faire « OK, là, c'est 2012, là, la prochaine. » Puis là, fait que toi, c'est quoi qui s'est passé?
Ben, c'est un peu ça. Tu sais, je dirais que j'ai été 16 jours, en fait, sans courir. Puis je dirais que les derniers jours, j'avais hâte de recommencer. Tu sais, sais que c'est sûr que tu sors d'une grosse saison, grosse performance. Tu sais, j'ai encore faim, puis je le sais que je peux aller chercher plus fort, plus loin que ce que j'ai fait. Puis là, c'est sûr que, tu sais, j'ai eu une rencontre avec Félix, un peu un débrief de la saison, puis on a parlé aussi des prochains objectifs qui s'en venaient, puis, tu sais, j'ai hâte, justement, à la prochaine course, évidemment. Tu sais, on s'entraîne, tu sais, j'aime ça m'entraîner, mais je m'entraîne aussi pour performer lors des courses, puis, tu sais, j'avais hâte, là, de courir, puis je sais que, tu sais, je voyais qu'est-ce qui s'en venait, il y a des championnats du monde l'an prochain, puis je pense déjà à ça quand même, sans nécessairement être stressé par rapport au système de qualification, mais je sais que pour venir à l'entraînement, si on veut espérer de se classer pour les mondiaux l'an prochain.
Ouais, ouais, exact. Faut pas trop tarder.
Exact.
Là. Surtout qu'il y a encore des gars qui courent là, en ce moment. Là. Il y a des
exactement,
courses. Tu ouvres YouTube et c'est comme ah là, Inge Britson vient de faire le record du monde sur 3 kilos pendant que moi, j'étais dans mon lit à écouter Netflix.
Exactement.
Comme, fuck. Lui, il a pas pris 2 semaines. Là,
non, exactement. Puis je pense que c'est plus à Jacob, il vient de faire 7-17 pendant que j'étais après boire une bière. Là.
Ouais, exact, c'est ça.
C'est encore pire.
C'est ça.
Non, 7-17 sur 3000, c'est complètement capoté.
Mais en fait, pour faire la parenthèse sur Inge Britson, j'imagine que pour être capable d'être le world fastest sur 1500, même s'il est arrivé quatrième au 1500 cette année, peut-être qu'on peut critiquer la gestion de course peut-être, là, et gagner le 5000, c'est que le 3000, c'est ton sweet spot dans le fond.
Exactement. Je pense que le gars, c'est tellement une bête aérobique qu'il aurait été contender sur 10 000 aussi à son
probablement,
niveau.
Probablement,
ouais. Je pense que c'est un gars facile de 26-45. Même voire 26-30, puis je serais même pas surpris s'il était en mesure de faire le record du monde quand même sur 10 000, de voir son niveau, puis je pense que, mais courir 7-17, peu importe.
C'est fou, ça n'a pas de bon sens. Ça pas de bon sens.
C'est 58 avec des taxes partout, deux fois 3,38 au 1500.
La course est intégrale disponible sur YouTube, là. Puis c'est juste débile comment les autres gars qui sont comme des world class aussi, ils ont l'air de moi. Ils ont l'air de comme si moi, je suis en arrière de toi, mettons, là, ça n'a pas de sens.
C'est Mohamed, c'est un coureur de 12,47 sur 5000 mètres.
Ouais, il n'est pas dans la course pendant tout.
Il est 4e au Mondiaux sur 10 000. S'il n'avait pas eu une chute sur 5000 mètres,
il est tombé sur
le
5000,
je pense qu'il aurait fait... Je pense pas mal convaincu qu'il aurait fait un top 6 sur 5000 aussi.
Ouais.
Voire même un podium. Donc, le voir se faire larguer comme si...
Ouais.
S'il était pas bon,
c'est fou, hein?
Un peu capoté. Là.
Ouais, pendant que l'autre, il est encore comme vraiment à contrôle.
Ouais, threshold, si
ouais.
On
veut. Ouais. Ils ont sorti son heart rate pour son 5000 aux Olympiques. Puis son average est plus bas que mon seuil.
Ouais,
moi, puis probablement que lui, il est plus bas que son seuil aussi. Tu sais, il doit être vraiment.
Average à 174, si je me trompe
pas. Ouais, c'est
là,
ça.
C'est quand je fais du threshold, je tourne à l'entour de 170, 172, je vais à 3 flats du kilo.
Ouais, exact.
Je vais pas à 240. Là.
C'est fou, hein? Mais parlons justement du 5000, en fait. Puis on reviendra sur les Olympiques plus tard parce qu'on est là-dessus. J'ai fait un 5 kilos time trial l'année passée. Puis à ce jour, puis j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai fait 20 ans de natation, de compétition. J'ai fait toutes les distances. Évidemment, à la fin, j'étais plus sprint. Là. J'ai fait du marathon dernièrement. J'ai fait demi-Ironman. Le 5 kilos, c'est la distance la plus difficile que j'ai faite de ma vie. C'est l'effort le plus difficile que j'ai fait de ma vie. J'ai fait 16,40, puis j'étais mort. Là. Puis genre 188 de average avec un pic à 198, là. Ça te laisse comprendre comment j'étais, là, tu sais. Puis à la fin, ça goûtait le sang, puis je pensais pas que j'allais me rendre, là, tu sais. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que j'imagine qu'il y a deux affaires. Il doit avoir le 5 kilos quand c'est une course, puis le 5 kilos pour le PB. Mais toi, j'imagine que, à ton niveau, mettons en préliminaire aux Olympiques, si c'est quasiment un 5 kilos pour le PB, direct, même s'il y a une course, là.
Ouais, ben, au jeu, c'est vrai que ce que tu sais, des fois, on s'enligne sa ligne de départ, puis on sait très bien qu'on va pas faire un PB. Puis je pense que c'était quand même mon cas aux Olympiques. Je savais qu'en qualif, ça allait pas être une course à PB parce que, ben, justement, il y a plusieurs gars qui avaient couru le 1500 mètres la veille. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toutes les. Tout était là pour pas que ça soit une course de 13-05.
Puis toi, ça te sert à rien de faire. Je vais partir pour mon meilleur temps à moi. Là,
non, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, j'étais ranké 36e sur 42. Donc, clairement, que je dirais le trois quarts du field aurait été capable
d'embarquer de rester avec toi,
une journée normale. T'sais.
Ouais.
Fait que moi, c'était juste de rester rester le plus relax possible sur la rail, puis faire le moins de distance possible, en fait. Puis quand ça allait accélérer, c'est de rester dans le coup. Puis ça, c'était vraiment. Une course facile, tu sais, si on veut. On a couru 14-09, je pense.
T'sais, on est fait quasiment une minute plus lent que ton PB.
Exactement.
Là.
Fait que,
c'est quand même vraiment considérable.
Oui, exact. C'est
fini à bloc les deux derniers tours, j'imagine, de toute façon.
Mon dernier kilo, c'était 2,26. Ça, c'est sûr, ça a été rough, mais c'est la seule partie de la course qui a été difficile parce que le reste, on était à peu près à 3 minutes du kilo. Puis en spike avec l'adrénaline des Olympiques, le stade plein, c'est sûr que.
Carb loadé la veille.
Exactement,
là,
avec du Morten bicarb.
Ouais.
On était vraiment complètement. Ben, en tout cas, moi, j'étais vraiment
sous
lousse.
Contrôle. Là,
exactement, c'est vraiment facile. Je n'ose même pas croire comment Jacob il se sentait dans une course similaire. Là.
Lui, ça devait être un jog. Là, dans
probablement.
Le fond.
Lui, il devait rire un peu du monde. Puis...
Ouais. Ouais, puis après ça, c'est quoi la différence entre ça? Puis, tu sais, c'est quand les occasions de faire un PB, dans le fond?
Ben, je dirais. Sur des,
parce que c'est ma blonde qui me posait cette question-là, puis j'avais comme pas la réponse. On regardait les Olympiques, puis j'étais comme. Tu sais, en natation, là, il va toujours avoir. Tu sais, le gagnant va tout le temps être en finale, là, le plus proche du record du monde qu'il peut être. Tu sais, il va tout le temps être à bloc, essayer de faire sa meilleure performance à ce moment-là, tu sais. C'est quand les occasions de faire des PB, spécifiquement sur le 1500 jusqu'à 10 000, mettons.
Je dirais que sur 1500, c'est un petit peu plus fréquent parce que t'as moins besoin d'avoir un rabbit longtemps pour avoir justement une course à PB. Mais tu sais, ça reste que ça prend les bonnes conditions, ça prend le bon monde aussi dans la course, puis quelqu'un qui est prêt à, quand que le rabbit s'enlève, de rester
de
sur
partir,
pace en
ouais.
avant. Puis sur 5000, les occasions sont quand même assez... sont pas fréquentes, là, je dirais.
Mais est-ce que le monde le savent d'avance? C'est comme, hey, cette course-là qui a lieu en novembre, ça va être une course avec un rabbit qui va partir les trois premiers kilos sur le record du monde.
Oui, exact. Ça arrive. T'sais, on a des courses à l'Université de Boston Indoor, BU. Ça arrive quelques fois par année que tous les gars NCAA, ils se ramassent tous là. Tous les pros, mettons, de l'Amérique du Nord s'en vont là-bas. Puis tout le monde sait que ça gagne pour faire justement les records nationaux. Puis ça, c'est quand même des courses que j'ai manqué dans le passé, puis j'avais pas accès avec mon niveau. Donc, ça, c'est sûr que cette année, je vais avoir accès à ces courses-là.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a certaines courses qui sont vraiment là, courses à PB, puis ensuite de tout ça, c'est un petit peu plus rare. T'sais, même en Diamond League, il n'y a plus vraiment de 5000 mètres. Ça arrive quelques fois par année. Donc, à mon niveau encore, je vais avoir quelques courses quand même d'accessible pour faire un PB. Puis ça, quand ces courses-là à 3000 mètres, t'as vraiment envie d'arrêter. Là.
C'est ça, hein?
T'es plus capable.
C'est normal, ce sentiment-là.
Ouais.
Là.
Tu te demandes comment tu vas finir. T'sais, ça m'est arrivé dans le passé, quand il y a des courses qui vont un petit peu moins bien. Tu regardes sur le côté, puis t'as quasiment envie d'enligner le compte pour tomber parce que ça te tente quasiment plus.
Trouver une excuse là, pour arrêter. Là.
Puis, mais quand ça va super bien, t'sais, quand j'ai fait mon PB cet été, ça a commencé à être dur. Il restait, je dirais, 1200 mètres. C'est ça, c'est vraiment une course optimale à PB.
Parce qu'au moins, t'es rendu dans le dernier kilo. Puis le dernier kilo, même si c'est le calvaire, tu sais qu'il reste juste un kilo.
Exact. Faut que tu te
mais quand c'est le calvaire à 3 kilos, quand c'est le calvaire, tu sais qu'il en reste 2. Le quatrième kilo, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis en plus, on parlait à Guillaume. J'étais avec Guillaume puis Charles Castonguian avant de moi, qui me paissait, JP aussi, qui était là. Puis il m'entourait là, pour essayer de...
Comme le sub-tu...
Ouais, exact, c'est ça. On essayait de faire vraiment comme aérodynamique à fond. Puis à un moment, je me suis dit, si les gars n'étaient pas là, il n'y avait aucune chance que je finisse la course. C'est juste que là, je voyais les gars, puis j'étais comme, c'est quoi je vais faire? je vais arrêter, tu sais, on était au centre des classes, je vais arrêter, je vais me mettre en boule sur le côté, genre, c'est... Tu sais, j'avais comme envie de faire ça.
Ouais, ben mais... c'est totalement normal.
Ouais, ce qui fait que c'est, au moins, je sais que ouais. C'est normal, moi.
Tu sais, c'est tough, tu vas arrêter, tu te demandes comment tu vas te rendre, il te reste trois tours, t'es comme, ouais. Aïe, comment je vais faire? Puis tu sais, souvent, on essaie d'accélérer aussi à la fin, notre dernier tour, c'est pas rare que c'est ouais. Le tour le plus rapide aussi, ouais. Puis avant d'être dans le dernier tour, c'est impensable d'accélérer, puis finalement, je sais pas pourquoi, mais on est capable d'accélérer. Ouais. Tu sais, je pense que c'est vraiment mental.
C'est ça, hein, c'est un blocage mental parce ouais. Que le corps, il continue. Là,
exact. On sait que c'est notre dernier tour, fait qu'on a comme le hockey du corps ou mentalement qu'on ouais. Peut pousser puis tout se vider. Mais sinon, tu sais, c'est rough, là. Un 5 kilos, là...
Mais quand t'arrives, mettons, justement, à ta finale aux Olympiques, où est-ce que là, c'est une moins bonne course, c'est une moins bonne journée, est-ce que tu te mets dans cette zone-là quand même? Tu sais, même si tu te fais dropper par le pack, c'est sûrement pas capable de te mettre à cette zone-là. Là.
Non, tu sais, un coup que j'ai été droppé par le pack, tu sais, juste le fait de... Tu sais, j'ai trébuché un petit peu avant, puis ouais. Je me suis fait une petite entorse à la cheville, puis ouais. L'entorse a vraiment pas affecté le patron de course, puis c'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai été droppé. Je pense que c'est vraiment l'aspect mental de tout ça que ça a vraiment décroché, puis je pense qu'à ce niveau-là, j'avais pas de lousse mentalement pour...
Ouais, je comprends.
J'avais vraiment aucun lousse mentalement, donc c'est certain que ça l'a joué beaucoup, mais tu sais, un coup, je me suis fait dropper, c'était négatif dans la tête, puis ouais. Je pouvais plus... pas que j'ai abandonné, là, je dirais pas que j'ai abandonné, j'ai quand même essayé de pousser puis de maintenir un pace qui avait du bon sens, mais je me suis pas non plus mis deep dans...
Ouais, je comprends. Puis ça aurait rien donné, parce que de toute façon... C'est comme, ce sera pas un PB exactement. Anyway, ce sera pas...
PB, je fais pas un classement que je voulais faire, donc c'est certain que c'est dur, le rendu là. Tu sais, que c'est plus facile quand tu as une bonne course, tu passes sur des bonnes bases, tu arrives à 3000 mètres et c'est un pace de PB. Ben, c'est sûr que c'est tout est positif. Puis c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai fait mon PB. Moi, c'est tout était positif. Je partais, on avait un plan de match avec mon coach, puis finalement, j'ai pas nécessairement respecté le plan de match, puis j'ai vraiment fait confiance à mes feelings, puis je savais qu'est-ce que je vais aller à ce moment-là. Puis mon coach, qui est Félix-Antoine, il voulait être un petit peu plus conservateur parce qu'on savait que j'avais pas de course à échapper avec pour essayer de me classer pour les Jeux. Je pouvais pas manquer ouais. Une course.
Fait que vaut mieux faire attention exact. Que complètement blower up.
Viser un 13-15, finir fort, faire un 13-12, puis j'aurais été excessivement content à ce moment-là. Parce que mon PB, c'était 13-22, donc ouais. C'est ça. Mais valait mieux essayer ça que d'essayer le coup de circuit le standard, puis finalement ouais. Casser, puis faire un 13-30, puis finalement... Ça n'aurait jamais passé aux Olympiques.
Ouais.
Puis on dirait que je le savais en dedans de moi que ça, je l'avais dans cette journée-là. Puis je pars avec le pack, puis c'était juste du positif. Finalement, je passe sur le pace de standard, puis excessivement confortable. Je me dis, aïe, c'est facile, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Je suis comme.
Encore dans le pack.
Je suis vraiment confortable. Le monde commence à dropper du pack, puis moi, je couvre les moves.
Ouais.
Jusqu'à ce que je me ramasse en avant, puis ça, c'est encore de quoi de positif. Tu es en avant, tu es un énorme pace de PB.
Ouais. Tenir le pack quand il y en a qui se font dropper, ça doit être, à chaque fois qu'il y en a un qui se fait dropper, ça doit être un boost mental.
Exact.
Là, ouais.
C'est vraiment du gros positif. Ça, c'est sûr que peu importe le pace, la vitesse, l'endroit, quand tu as du gros positif puis tout va bien, c'est sûr que tu as plus de chances de faire un PB.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment... C'est le mental joue pour une grosse partie.
Ben c'est ça, parce qu'il y a évidemment l'aspect physique puis la préparation physique, là, fait être prêt pour la performance, mais étant donné que c'est un effort qui est tellement tough, puis un spot, là, tu sais, t'as pas... C'est assez court pour que t'aies pas de place à l'erreur, mais c'est assez long pour que tu te remettes en question à peu près 1 million de fois, là, tu sais. Tu sais, sur un 100 mètres, tu te remets pas trop en question. Ah, là,
ils doivent être vitesse
maximale. Le 100 mètres, il y a vraiment pas place à l'erreur, exact. Mais tu te remets pas en question une fois. Le marathon, il y a crissement place à l'erreur, mais tu te remets en question à chaque kilomètre. Là, le 100 kilos, c'est comme le spot où est-ce que c'est au milieu de ça.
Tu peux faire quelques erreurs, c'est possible de récupérer dans quelques heures. Tu sais, des fois, tu peux faire des accélérations, essayer de couvrir un move dans le pack un petit peu trop tôt, puis tu te rends compte que finalement, c'est totalement... inutile à faire, mais c'est encore possible de récupérer de tout ça. Mais en effet, on se remet en question quand même assez souvent. Ouais. Là, à la fin, c'est pas le fun, t'as envie d'arrêter. Des pensées négatives embarquent. T'sais, même si ça va super bien, t'as deux, trois pensées négatives qui embarquent, c'est certain.
C'est ça, puis y a pas de façon de tricker le cerveau à avoir juste des pensées positives. Là. Happy thoughts, happy non, thoughts. Pendant que tu cours, t'as envie de vomir, ça marche pas.
Il y a des façons d'essayer de... d'améliorer puis de travailler son, c'est ça, l'aspect mental.
Ouais.
Il y a des thérapeutes qui sont là justement
c'est
pour ça.
C'est ça, exact. Ouais.
Mais tu sais, c'est pas vrai que quand tu cours, tout est beau, tout est. Même dans un jog, easy jog du dimanche, ça ouais. m'arrive des fois d'être tanné puis d'avoir mal un peu au pied. Ça arrive puis c'est moins le fun. Puis
ouais.
c'est pas juste dans les courses. Là, c'est au day-to-day que des fois, il y a des aspects le mental qui est pas nécessairement tout le temps là.
Ouais, une long run, quand le mental est pas là, c'est un peu poche.
C'est long.
C'est long en crise.
C'est plus faisable, mais ouais. c'est quand même long.
Ouais, ouais, vraiment. Fait que revenons au jeu, dans le fond. Je veux juste. Moi, de mon point de vue, la semaine passée, ou du moins, les gens qui écoutent le podcast, j'ai fait un top 10 de mes moments aux Jeux Olympiques, mes moments personnels que j'ai aimé regarder. Là. Mais ça avait l'air des jeux. La foule avait l'air absolument débile là, par rapport au. Moi, je suis les Olympiques depuis Sydney en 2000. Okay. Fait que, ben, tu sais, j'étais plus jeune, ouais. évidemment, à ce moment-là, mais c'est ça que j'ai vu. Puis ça m'apparaissait. À Paris, ça m'apparaissait comme la foule la plus débile. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Tu parlais de rentrer dans le stade de 80 000 personnes. Le soir, en finale, ça devait être complètement fou. Là.
Ah, l'adrénaline, ben, c'est un malade mental. C'est dur à décrire. T'sais, tu rentres dans le stade. Quand en fait, il y a des chambres d'appel. Il
ouais.
y a une première chambre d'appel où c'est qu'on fait juste s'assurer qu'on est présent, dans le fond.
Ouais.
Ensuite, on marche 3-4 minutes, on s'en va dans une deuxième chambre d'appel. Puis là, c'est les toilettes, puis les derniers préparatifs. Puis ensuite, il y avait une longue marche pour se rendre justement à l'entrée du stade.
Ouais.
Puis ça, on marchait justement en dessous du stade, puis on entendait là,
ouais.
le monde crier. Puis là, la pression monte, t'es stressé. C'est une longue marche. Probablement que si j'avais fait ça aujourd'hui, elle serait probablement moins longue, mais avec le
ouais.
stress et tout, ça paraissait interminable.
Ouais.
Puis en finale, on a attendu peut-être 5-6 minutes sur le bord du stade avant de rentrer.
Ouais.
Parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas prêts à nous accueillir ou quoi que ce soit. Puis ça, là, c'est un des moments les plus stressants. Là.
C'est sûr.
Je savais pas quoi faire. Tu regardes les autres. On dirait que tu restes focus, mais c'est dur d'être focus. Tu regardes les autres, tu juges les autres un peu, tu regardes qu'est-ce que lui fait,
ouais.
Puis moi, dans le fond, ça marche par ordre alphabétique, là, comment ils nous plaçaient sur la ligne de départ. Puis moi, il y avait à gauche Gebrewet, qui est lui qui a le meilleur temps cette année mondiale, le 12-36.
Ouais.
Puis c'est
qui
lui
était juste à côté de toi.
Exactement. Puis je le regardais, puis lui, il avait l'air pas trop stressé quand même. Là. C'était pas son premier rodéo, évidemment,
ouais.
en course internationale.
Ouais.
Puis il y a une affaire qui il voyait que j'étais stressé, je pense, puis ça paraissait, puis il me tapait sur l'épaule, puis il me dit « Tu vas être correct. »
Ouais.
Puis,
c'est hot, pareil comme ouais. moment, ça.
Puis ça, c'est juste avant de rentrer dans le stade. Quand on rentre dans le stade, on fait des strides. Puis c'est vraiment les strides, autant en qualif qu'en finale, c'est les strides que j'avais le plus de jambes
ouais.
dans ma carrière. C'est juste
tu
le fait de
voler,
rentrer, la foule crie, tu fais des strides. C'est comme, on dirait que tu peux faire des strides à l'infini. T'es même pas fatigué.
Tu pourrais faire 5 kilos de strides.
Exactement. Puis ça, c'est comme, aïe, j'ai de la jambe. Mais je pense que c'est pas nécessairement le fait d'avoir de la jambe versus le hype de rentrer
ouais.
dans le stade, l'excitation. Justement, on est carb-loadé à bloc, caféine, tout. Fait que je pense que... Non, c'est malade mental. Puis même, c'est ce que je me suis fait dire aussi d'autres personnes qui ont fait des jeux précédents. C'est vraiment une des... Ça va être un Olympique dur à battre niveau
ouais.
Organisation. Niveau, ils ont mis le paquet. Là, Paris a mis le paquet. Puis la barre est haute pour aller. Là,
justement, ouais, vraiment.
28 que... La foule était vraiment présente, les installations étaient vraiment sa coche à des places dans la ville qui étaient vraiment... T'sais, mal, juste le volleyball de plage...
Ah, c'était débile.
En face de la Tour Eiffel, c'est incroyable.
Ouais, je sais pas si t'as vu le vélo sur route, la finale des hommes.
J'ai pas... Ben, j'ai vu certains, mais j'ai pas nécessairement
regardé en live.
En tout cas,
c'est Evenepoel qui a gagné. Puis là, il s'est juste arrêté... À la ligne d'arrivée, il a déposé son vélo sur ses jambes, il a levé les bras de même, puis le gars qui filmait, il a juste zoom out, puis en arrière de lui qui est de même, les bras dans les airs, c'est la Tour Eiffel, c'est comme...
Ah, c'est...
Ça pouvait pas être mieux que ça. Là. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. On dirait qu'il y avait comme pas de faux pas à ces
ouais,
Olympiques-là.
Ils ont mis vraiment la beauté de la ville.
Ouais.
Ils ont utilisé ça pour justement faire ça encore plus grandiose que l'aspect olympique.
Ouais. Puis ils ont utilisé aussi... les infrastructures de la ville qui existaient déjà. Tu sais, il y a des jeux, des fois, qui créent, mettons... tu sais, à Beijing, je me rappelle, il avait fait le Water Cube, qui était comme le nouveau... la nouvelle espèce de place puis qu'ils ont mis à la piscine, mais que le Water Cube, après ça, il est comme devenu délabré puis qu'il sert plus à rien, là, tu sais.
Je pense que c'est ça qui est le fun avec Paris aussi, c'est qu'ils ont, justement, ils ont, tu sais, nous autres, notre piste était dans un stade de soccer, si
exact,
je me trompe pas, donc le stade de France.
Le stade de France, c'est ça.
Donc ça, c'est sûr que... il va être réutilisé.
Ben, c'est là que la France joue.
En ce moment, il y a les Jeux paralympiques. Donc c'est sûr qu'il est encore utilisé, mais dans 3 semaines, ben, le stade va être encore utilisé.
Ouais, exact.
Ça, c'est quand même une bonne chose. Au lieu de construire des stades à des millions et des millions de dollars, justement,
mettre à profit toutes les installations qui sont déjà là. Non, ça avait l'air vraiment fou. Puis la foule semblait, surtout en athlétisme, la foule semblait... savoir de quoi il parlait. Tu sais, la foule semblait être à l'affût de comme quand il y avait une grosse performance qui s'en venait, on sentait la tension qui arrivait. Quand la foule était comme capable de comprendre qu'est-ce qui se passait sur le stade, là. Est-ce que je me trompe?
Non, je pense que c'est vrai. Puis aussi, l'athlétisme en Europe, c'est big. C'est tout le monde. J'ai fait des petites compétitions, là, des tout petites compétitions, puis les estrades sont pleines. Il y a du monde partout alentour de la piste. Puis j'ai l'impression qu'en Europe, c'est comme un peu une culture, là, l'athlétisme. Puis. Je pense que ça s'est senti justement au jeu. La salle était pleine, il y avait tout plein de connaisseurs, puis le monde savait de quoi qu'il parlait justement, puis il savait quel événement qui allait être les gros événements. Les estrades étaient pleines en conséquence, mais même encore là, je pense que les estrades étaient pleines pas mal.
Ouais, ça avait l'air sold out tout le temps.
Exact, même moi, ma qualification, c'était le matin à 11h, tu sais, c'est pas nécessaire. Puis il n'y avait pas nécessairement d'event extrêmement. Comme il n'y avait pas de finale, il n'y avait rien. Puis c'est peut-être 90% sold out en qualif. Donc c'est certain que c'est comme il y a 70 000 personnes dans le stade en qualification.
C'est fou, hein?
C'est comme. C'est vraiment pas la même game que faire une course au Québec.
Ouais, non, c'est ça, exact. Exact. Les courses, c'est les compétitions d'athlétisme, je me rappelle, juste quand j'étais en Rougéor, puis qu'il y a des compétitions d'athlétisme au Rougéor dehors, tu vas voir, puis il y a comme. Ben, il y a même autant de monde qu'en piscine, c'est-à-dire les parents des gens qui sont
exactement,
là.
Exactement, quelques amis ici et là. Puis, mais tu sais, non, c'est ça, s'il y a 300 personnes au PEPS, quand il y a une course, c'est quand même un gros événement.
Ouais, exact, exact.
C'est sûr que ça fait changement. Puis moi, j'ai été chanceux dans mon côté. Il y a plusieurs athlètes, comme Charles et Jean-Simon, ils ont fait des courses internationales avant, ils sont allés au championnat du monde l'an passé. Donc, le step est un petit peu moins gros. Pour eux autres de
toi, ton step, il est massif.
C'est quand même, tu sais, j'avais jamais fait de course internationale avant. J'avais jamais couru dans un stade de plus que 1000 personnes, je dirais. T'sais, le plus gros, je pense, que j'avais couru, c'était au Saint-Claude-Robillard.
Ouais.
Donc, je pense que c'est le fait de rentrer en Diamond League à Paris un mois avant, c'est quand même ça m'a vraiment aidé parce que quand j'ai rentré dans le stade à
t'as compris, là. T'avais déjà vu quelque chose de débile déjà.
Exactement. Tu sais, il y avait 17 000 personnes, si je me trompe pas, à la Diamond League. C'est quand même. Puis l'ambiance, justement, à Paris, le monde, justement, ça capote sur l'athlétisme. Puis ils savaient que les Jeux Olympiques s'en venaient. Fait que j'ai l'impression que ça l'a comme rajouté un peu une touche d'excitation à la foule. Fait que j'ai comme un peu goûté à c'était quoi une ambiance. Un peu folle là, avant une course. Donc ça m'a vraiment aidé parce que je pense que si j'avais pas eu cette expérience-là avant, le step aurait peut-être été un petit peu trop gros et j'aurais peut-être un peu croulé sous la pression.
Ouais.
Puis même là, j'étais excessivement stressé là, en qualif. Mais là, c'est drôle parce que c'est pas arrivé. Mais il y a, dans le fond, j'ai pris le Morten Bicarb avant la course. Puis,
ça, c'est l'espèce de gel que tu manges avec une cuillère. Là.
Exactement, ouais, c'est du bicarbonate de soude qui est comme un peu en cap. Bref, il y a une genre de technologie alors.
Qui est des carbs, mais qui est aussi supposé retarder l'acide lactique, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Puis j'ai pris ça, puis j'ai pris une dose un petit peu trop forte, puis j'allais aux toilettes, puis c'était de l'eau.
Ah ouais, hein?
Je sortais à plusieurs reprises. Fait que là, je commençais à stresser dans la deuxième chambre d'appel, ça arrête pas, puis là, tu sais, je m'en vais faire la course la plus importante de ma carrière.
Ouais.
De loin, j'étais aux Olympiques, c'est pas le temps de me chier dessus.
Non. Puis 15 minutes, c'est assez long pour que tu te chies dessus. Mais 15 minutes, 13 minutes, là, c'est assez long.
Non, il y a en masse de temps pour que ça sorte. Fait que là, la marche pour me rendre justement à la piste en dessous du stade, ça roule dans ma tête. En plus, je rote en plus de ça. Là, je suis comme, aïe, aïe, ça va pas. Mais je dis ça, j'ai l'impression, finalement, rien de ça est arrivé. Puis est-ce que ça a retardé l'acide lactique?
Ah, on sait pas.
On le saura jamais, mais en tout cas...
C'était-tu la première fois que tu prenais ça?
C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que j'en prenais autant fort que ça. Je me suis dit, hey, t'es aux Olympiques, t'en as besoin.
Ouais. Y a rien de mieux que d'essayer une nouvelle affaire aux Olympiques.
Si tu dis de pas faire, je l'ai fait. Puis finalement, ça a passé proche de pas passer, mais Finalement, ça a fonctionné. Puis je pense que ça a vraiment enlevé un peu un peu de stress. Parce que là, on dirait que j'étais rendu stressé de pas...
D'autres choses.
C'est ça, exactement. J'étais stressé pour autre chose. Puis là, ça a comme un peu enlevé le stress de la course. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé drôlement, là, mais...
Nous autres, on avait déjà... J'ai jamais essayé le bicarb de Morten. Mais quand je nageais à Amnée, il y avait comme eu une mode très, très passagère, puis tu vas comprendre pourquoi, de capsules de bicarbonate de soude qu'il fallait que tu en prennes comme 45. Entre l'échauffement, c'est d'habitude, tu essaies de te warmer up 30 minutes avant la course, mettons 30 à 45 minutes. Puis là, après, entre l'échauffement et la course, il fallait que tu en prennes 45. Fait que tu passais à peu près 15 minutes à prendre des capsules puis à boire. Puis moi, j'ai fait ça une fois. C'était avant un 200 mètres d'eau, fait qu'un effort de 2 minutes à peu près. Puis, je me suis mis à avoir des... C'est pas des crampes, mais des... j'avais le ventre plein d'air.
Ouais.
Fait que tu sais, quand on dirait que quand tu retiens un pet, des fois, là, genre ça fait comme brrr dans ton ventre. Là. Ça s'est mis à faire ça. Là. Puis là, il a fallu que j'aille à la toilette. Puis là, c'était juste de l'air. Il n'y avait pas d'eau. Là. Moi, c'était pas comme toi, c'était juste de l'air. Puis j'étais gonflé, j'avais l'impression d'avoir une ballonne dans le ventre. Finalement, j'ai fait ma course, ça a-tu retardé? Il disait que ça pouvait retarder l'acide lactique de comme 5 à 10 secondes. J'étais comme, man, ça vaut pas la peine.
Non, c'est ça.
Ça vaut pas la peine.
Si ça l'affecte une autre partie, finalement, c'est pas nécessairement gagnant.
C'était la première et dernière fois que j'ai fait ça, là.
Enfin, 45 capsules, ça commence à faire...
Mais c'est ça, c'était genre des pilules, là, comme tu te prends une vitamine, exact. Mettons. Là, ça a comme pas de sens, là.
Ah non, c'est 45. Ben là, je pense que peut-être la technologie a peut-être un
J'espère,
petit peu évolué.
J'espère, en tout cas, parce que nous autres, ça venait en gros sac du bloc, là.
Tu sais, moi, je connais des athlètes, justement, qui ont fait... qui ont pris ça avant que le Morten, la technologie qui ont sorti... fasse en sorte qu'on n'est pas supposé aller aux toilettes
et
avoir des gros problèmes gastriques. Puis justement, il s'est fait caca dessus pendant sa course.
C'est
quand même
une
assez
course
gênant.
Sur track, là.
Ah ouais, le monde,
c'est pas comme le marathon. Là. En marathon, il y en a que ça arrive. C'est comme, on le voit des fois.
Oui,
sur track, on le voit jamais.
On prend de la nutrition, il peut avoir des problèmes gastriques. Puis il y a des toilettes aussi sur le bord. Donc c'est certain que...
Sur un 5 kilos, ça arrive.
Ça traque, ça peut être un peu embarrassant.
Ouais, j'imagine. Devant 70 000 personnes.
Ouais. Non, j'y pensais, j'étais comme aïe aïe.
Imagine, c'est ça ton souvenir olympique.
Ouais.
Les photos de toi aux Olympiques, il y a une coulée de brune en dessous de tes cuisses, man. C'est pas le fun, là.
Non, ça aurait été bon pour les médias.
Papa,
par
t'es
contre.
Déjà allé aux Olympiques? Oui. Pourquoi il n'y a pas de photos? Parce que tu veux pas les voir.
Non, je suis content que ça soit pas ça, mon souvenir. Non, au lieu de ça, il y a quand même une pas pire photo. Quand j'ai sauté par-dessus les gars, la photo est quand même incroyable. Il y a
c'est
plusieurs
épique,
angles. Il y avait plusieurs photographes sur place. Puis ça, c'est quand même une photo assez incroyable.
Ça, c'est à faire encadrer, là.
Ouais, clairement. Là, on a encadré la camisole avec mon dossard.
Ouais.
J'avais la camisole Joshua Cheptegei.
Ouais.
J'avais échangé avec lui au championnat du monde de cross.
Nice.
Finalement, là, on a mis ma camisole à la place de la camisole à Cheptegei. Puis je l'ai plié, puis je l'ai mis dans un... Jaguar quand même, là, record... C'est quand même le record du monde aux 5000, 10000, 15 km. Donc,
garde-la, là.
ça vaut quelque chose. Puis c'est le fun aussi d'avoir justement une camisole d'un athlète aussi.
Ben oui, iconique que ça, là.
Exact.
Tu sais. Ouais, mais ça.
Puis non, c'est sûr que finalement, je suis content de pas. Puis en finale, j'ai pris moins de.
Ouais.
Une dose pas mal plus petite. Là, j'en ai pris, mais je suis revenu à une dose vraiment plus standard. Puis ça marche avec le poids. Puis je me suis rendu compte que je prenais la dose qui m'a bousillé le ventre. C'était la même dose qui a bousillé le ventre à Marco Arop.
Okay.
Qui est, il a fini deuxième au 800 mètres. Puis il est pas mal plus costaud que moi.
Il est gros, là, c'est un gros bonhomme, lui.
Ouais, il pèse au moins 40 livres de plus que moi.
Ouais.
Facile.
Ouais.
Puis même lui, c'était trop fort pour lui. Fait clairement que...
Toi, t'es allé trop haut, là. T'as overshoot pas
mal. Ouais. Fait que non, je pense que c'est une bonne erreur de ma part.
Ouais.
On apprend de nos erreurs, puis...
Comment tu te prépares pour une... mettons, moi, je pense à aux derniers efforts que j'ai faits depuis que je fais plus de natation, parce que j'avais moins le souci de ces choses-là quand je nageais. Mais maintenant, mettons, mes efforts, c'est une journée. Fait que je fais soit un marathon, soit un demi-marathon, soit un demi-Ironman, ou soit un triathlon. Fait que c'est une journée. Fait que je suis capable de planifier... mon carb load, je suis capable de planifier ma prep pour piquer une journée. Toi, t'as quand même 2 fois 5000 mètres à comme 3 jours d'intervalle? 2 jours d'intervalle?
2 jours, en fait, entre les deux. Fait que 3 jours.
3 jours d'intervalle. Fait que comment tu réussis à manage ça? Parce que tu veux pas, tu veux être capable d'en avoir pour la deuxième fois, mais j'imagine que tu t'es pas en position de trop négocier sa première, là.
Exact. Dans mon cas, c'était vraiment la qualification, c'est la finale pour moi.
Ouais.
Fallait que je laisse tout sur la piste puis que je fasse comme si c'était ma seule course, puis c'était la finale. Puis moi, il n'y avait pas eu de question de on s'en garde pour la finale, puis quoi que ce soit, parce qu'il fallait vraiment que j'aie une course hors du commun pour passer justement en finale. Donc, moi, j'ai vraiment tout laissé sur la piste, puis même la préparation aussi, c'était vraiment je focus sur la qualif, puis au pire, je vais en finale, puis on verra. Ouais. T'sais. Au mieux, en fait, je vais en finale. Ouais.
Mais fait comment tu bounces back après quand tu vas en finale? Là, tu fais « Oh shit, là, comme là j'ai carb loadé, j'ai stressé à fond, je me suis crinqué pour ça. » Il faut que je recommence dans 3 jours.
Ouais, ça a été quand même assez dur. Même niveau sommeil, c'est une excitation énorme.
Ah, c'est ça, exact.
C'était mal, tu sais, ça a été tough entre les deux courses quand même. Tu sais, j'ai pas nécessairement bien dormi, tu sais... Les douleurs un peu ici et là, on se le cachera pas. Closer en 2,26 aussi, c'est mon PB sur 1000 mètres. Faire des sauts aussi dans une course, j'avais un peu des petites douleurs, des petites tensions, mais il n'y avait rien de majeur. Mais ça a été quand même dur, mais j'ai essayé de rester quand même focus. Puis quand je suis arrivé sur le village le 3, je me suis dit, tu restes sur le village, tu fais rien, tu vas pas profiter nécessairement de la ville puis de toutes les installations parce que tu veux juste focus sur ta qualif. Puis là, finalement, ben je m'en vais en finale. Fait que là, c'est comme, ben là, même affaire. Finalement, on profitera pas tant que ça de l'expérience olympique. Mais j'ai vraiment relaxé le plus possible, passé beaucoup de temps dans mon lit quand même.
Ouais.
Puis, tu sais, à la fin, il y avait beaucoup de monde qui compétitionnait dans le premier bloc ou au début du deuxième bloc. Donc, ces gens-là, ils avaient quitté le village où ils allaient plus à l'extérieur, voir d'autres sports, profiter justement de la ville de Paris. Il y avait beaucoup moins de monde sur le village. Fait que j'ai l'impression, oui, c'est un petit peu plate l'aspect village avec beaucoup moins de monde, mais par contre, ça nous permettait d'être un petit peu plus focus, de faire nos affaires un petit peu plus facilement. Puis moi, j'étais avec dans les dorms avec Marco Arop, qui lui compétitionnait justement dans la même journée que moi. Donc on dirait que c'est un petit peu plus facile le fait. Les deux, on savait qu'on compétitionnait la dernière journée, qu'on passait un petit peu plus de temps ensemble. On allait justement manger ensemble, puis... Je pense que j'ai rien fait de nécessairement spécial à part essayer de relaxer le plus possible puis déconnecter.
Tu jogues-tu un peu ou non?
Ouais, j'ai jogué les 2 jours, dans le fond, des petits...
Avec des intensités ou juste rien pantoute?
Rien pantoute, juste 7-8 kilos easy. Okay. Puis on essaye, dans le fond, juste flusher un peu. Ouais. Je suis habitué de courir quand même pas mal, donc c'est certain que courir 7-8 kilos, c'était pas vraiment un problème. Puis s'il y a de quoi, ça fait du bien, puis ça prend aussi... un moment dans la journée, avec Félix, on s'est entendu. Il y avait une piste d'entraînement aussi. Donc, il y avait une piste de warm-up pour la compétition, une piste justement pour la compétition. Puis, il y avait une piste d'entraînement. Donc, avec Félix, on s'est dit, on va aller à la piste d'entraînement. Donc, il faut prendre la navette. On s'envoie à la piste d'entraînement.
Ça fait quelque chose à faire.
Ça prend une coupe d'heure dans la journée, pas nécessairement à juste focus sur penser à la course. Puis, on se le cachera pas que t'en vas en finale olympique, tu penses à... tous les scénarios possibles de la course,
exact.
Puis ça roule, puis juste le fait de quitter le village, aller à la piste d'entraînement, faire des exercices d'activation, étirement, faire le jog, revenir, parler avec Félix, ben tu sais, ça prend quasiment la moitié de la journée, puis ça passe plus vite quand même.
Ouais.
Fait que je pense que, puis... Non, je pense que j'ai rien fait nécessairement de spécial à part relaxer le plus possible, puis rester...
Ça fait du sens quand même.
Exact. Un peu de... pas mal de téléphones.
Ouais.
Les médias sociaux, répond aux messages, scroll sur TikTok.
Juste mettre ton cerveau à off et essayer de relaxer le plus possible.
Exactement. Puis quand que les gars, tu sais, Charles et Jean-Simon avaient compétitionné plus tôt quand même. Donc quand les gars ils revenaient justement au village, ben, j'en profitais pour aller prendre un petit café ou quoi que ce soit, ou les voir un petit peu. Puis il y avait aussi la...
Parce que c'est ça, toi, c'était la dernière journée. Là.
Exact. Dernière journée de compétition de track. Dernière session de track, dans le fond. En soirée. Puis le lendemain, c'était la cérémonie de clôture. Donc, c'est certain que... Tu sais, j'ai pas eu le temps
Il y a beaucoup
d'aller...
de monde qui sont sur le party quand même, là.
Pas mal. T'sais, tout le monde, en fait, sauf...
Sauf toi.
C'est exactement. Il y avait quelques athlètes qui étaient en dernière journée, mais... Tu sais, c'est certain que tu regardes les gars, on se cachera pas que ça a l'air le fun d'aller faire le party avec tout le monde de partout dans le monde, puis les athlètes. En même temps, je suis pas mal certain qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé ça être en finale olympique la dernière journée,
ben oui.
Puis faire le party après.
Oui. Donc, ah, puis le party, t'as toute ta vie pour faire le party.
Exactement. Donc, tu sais, je regrette pas pantoute, évidemment.
Ben non, c'est ça. Ouais, exact,
rien.
Exact.
Puis, tu sais, je m'étais dit, on reste focus pour la qualif, puis après ça, on profitera justement d'aller voir. Tu sais, j'avais des membres de la famille qui étaient là.
Ouais.
Puis je m'étais dit, bon, je vais pas trop les voir quand même. Tu sais, aller prendre des petits cafés quand même avant avec eux, mais rien d'intense quand même. Tu sais, je voulais pas aller marcher, passer la journée au soleil, non, c'est quoi ça, que ce soit. Je m'étais dit, bah, si je passe en finale, ben on fera pas ça ou on le fera après entre les deux courses. Puis sinon, ben après la qualification, ben on ira profiter justement de la famille et des infrastructures là-bas. Finalement, c'est pas arrivé. T'sais, j'ai pas eu l'occasion de la Maison du Canada qui avait quand même l'air cool.
Ouais.
Mais en même temps, je regrette pas pantoute de
ben non, c'est pas ça, aller c'est, là-bas. Puis... T'allais là pour courir, là?
Exactement. C'est j'allais ça. Là pour courir, puis la titre, puis... T'sais, j'ai passé beaucoup de temps sur le village, j'ai eu le temps de faire le tour au complet. Puis c'est juste le village en soi, c'est une super belle expérience.
Ouais.
Puis le lounge pas d'Athletics Canada, mais de Team Canada, en fait, t'sais, ça, c'était super le fun, des TV partout, de la bouffe, du café, plein de choses à boire. Ça aussi, c'était super le fun, voir justement d'autres sports, voir les sessions de track aussi.
Ouais, le vivre un peu, là, même si t'étais pas aux endroits.
Exactement. Puis, même là, j'ai pas été voir de compétition au stade.
Ouais. T'es pas allé en voir?
Non, parce que avant la course, je voulais me garder l'effet spécial du stade pour ma compétition. Puis, je sais que. T'sais, j'ai hésité gros d'aller voir la qualif à Jean-Simon. Puis, je me disais. Je vais aller le voir racer, mais je me suis dit, c'était le soir. Puis là, je me disais, hey, c'est sûr que si je vais là-bas, je vais être allumé, je vais avoir de la misère à dormir, c'est assuré. Fait que là, j'ai comme convenu que c'était mieux de le regarder sur la TV.
Ouais.
Finalement, je suis allumé pareil sur la TV, mais quand même moins qu'avec l'esprit puis l'ambiance du stade.
Ouais.
Il y a un peu de transport quand même pour se rendre au stade et tout. Fait que je me suis dit, j'aime mieux focusser sur ma performance. Puis...
C'est la bonne chose à faire.
Exactement. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose rendu là. Pis,
pas tout le monde, mais je pense que c'est la bonne chose à faire.
Ouais, c'est pas tout le monde, mais de mon côté, je pense que c'est vraiment ça. Puis le sommeil est quand même important aussi pour moi. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup.
Ouais.
Fait que je pense que c'est vraiment important de focusser sur ma propre compétition, puis that's it.
Ouais, bon move. Je veux qu'on parle un petit peu de ton training. Premièrement, qu'est-ce que tu penses qui est... la raison du succès derrière votre programme ou une des raisons? Parce que, je veux dire, on regardait, tu sais, l'équipe Canada, l'équipe Québec, c'est tout le même groupe, là. Vous êtes ce groupe-là. Vous êtes l'équipe Québec, mettons, là, qui était aux Olympiques. Qu'est-ce que tu penses qui explique ce succès-là?
C'est vraiment une bonne question. Je dirais, ben là, évidemment, le Félix-Antoine qui est derrière tout ça, le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il a fait ses preuves. Il a plus besoin.
On va le recevoir prochainement sur le podcast.
Le grand chef derrière le programme. Tu sais, Félix, il a fait ses preuves, il sait de quoi qu'il parle. Il est toujours aussi à l'affût des nouvelles technologies, il se renseigne beaucoup. Tu sais, Félix, c'est un excellent coach. Je pense qu'il y a ça. Puis il y a aussi le fait qu'on soit des athlètes qui soient quand même assez sérieux.
Ouais.
Tu sais, moi, Jean-Simon, on avait un certain potentiel quand on était jeunes. Puis le fait de... les deux, on a évolué dans un milieu complètement différent. Moi, j'étais à Repentigny. Avec Ariane Bouchard comme coach, qui était un excellent coach aussi, qui m'a bien développé, qui m'a amené à un certain, un très bon niveau, une équipe nationale junior.
Ouais.
Puis ensuite, déménager à Québec. Puis je pense que juste le fait d'avoir un groupe d'entraînement aussi, les installations qu'on a aussi à Québec, malgré qu'on a un hiver qui est assez dur pour l'entraînement, là, avec le nouveau centre de glace, ça fait quand même une grosse
c'est
différence.
Un game changer,
on a
ça,
la salle d'excellence. On a Charles Castonguay qui travaille avec nous aussi en préparation physique. Qui fait en sorte que les blessures aussi, on s'éloigne de ça le plus possible. Puis, tu sais, je pense que c'est un.
Puis que votre coach aussi, il prenne en compte l'importance de la préparation physique, j'imagine.
Exact. Parce que des fois. Ils travaillent ensemble.
C'est puis... ça, exact. Parce que des fois, c'est comme. Moi, je me rappelle quand je nageais, les coachs, ils parlaient quasiment pas à notre préparateur physique. Fait que là, tu faisais deux programmes qui allaient finalement. Un contre l'autre, là, quasiment. Là. Tu faisais de la force en salle, mais là, tu faisais en piscine quelque chose qui. Faisaient complètement dans une autre direction, mais que là, eux autres semblent vraiment travailler conjointement.
Exact, les deux, ils travaillent ensemble, puis je pense qu'ils ont des rencontres assez souvent aussi pour parler de certaines choses que je sais pas exactement, là, mais les deux, ils travaillent vraiment ensemble, puis ils veulent nous amener vers un autre niveau. Puis, tu sais, Félix est vraiment dévoué là, à sa tâche d'entraînement, puis ça, je pense que ça fait une bonne différence. Un coach qui est
quand
présent.
Quand tu sens qu'il est into it comme
exact.
Toi. Là,
ouais. Il veut autant, sinon plus que moi, que d'aller au jeu, tu sais, cet été, quand on parlait justement de peut-être à Flagstaff, quand que j'ai commencé à avoir des meilleures performances, on parlait justement de... Il y a peut-être une petite possibilité que ça se passe. Puis là, je voyais qu'il était excité. Puis,
ouais.
Tu sais, je pense que c'est... Je pense qu'on est des bons athlètes à la base. Puis le fait d'avoir un excellent environnement, autant coach que les environnements aussi ici à Québec, je pense que c'est surtout ça qui fait en sorte que le groupe a quand même beaucoup de succès. Là.
Est-ce que c'est important, tu penses, d'avoir un vet comme Charles?
Ben dans mon cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Tu sais, les fois que je suis allé en camp d'entraînement avec Charles, tu sais, le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait de quoi qu'il parle. C'est un peu un mentor, là, si je peux dire ça. Tu sais, les fois que je m'entraîne avec Charles, il m'amène toujours vers le haut. Il veut... Tu sais, lui aussi, il veut vraiment que je performe, puis... Je pense que ça fait quand même une bonne différence d'avoir un athlète comme Charles dans le groupe. Là, justement, son expérience aussi, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est sur le circuit, qu'il est un athlète professionnel. Donc, c'est certain qu'avoir des conseils aussi d'un athlète comme lui qui a vécu justement qu'est-ce qu'on est en train de vivre, moi puis Jean-Simon, ben c'est sûr que ça fait une bonne différence.
Je me rappelle, moi, c'est quand j'ai fini ma carrière de natation, j'avais 26 ans, puis je regardais dans les programmes... Puis je me sentais un dinosaure, là. Tu sais, j'avais 26, puis les autres avaient 20, là, tu sais, maximum. Puis même dans l'équipe du Rougéard, ici, j'étais à ma cinquième année. Tu sais, je veux dire, j'ai fait mon parcours universitaire de 5 ans. Je suis pas... J'ai pas pris mon temps. Ça fait pas 7 ans que je suis là. J'ai pas... Puis j'étais le plus vieux de l'équipe, quand même de loin, là, tu sais. Puis... Parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure à Fédération de natation du Québec et à Swimming Canada qui encourageait les gens à rester dans la piscine. Il n'y avait aucune raison, aucun incitatif financier, évidemment, mais aucune compétition intéressante pour les gars dépassés 23 ans, mettons. Fait que ça faisait que le monde arrêtait. Puis là, je regarde, Charles, il a 33, 34.
33 ans, oui.
Il a fait des cycles olympiques. Il est allé aux Olympiques. Il a raté une sélection olympique. Je veux dire,
ouais.
Cette connaissance-là, puis cette expérience-là, c'est priceless, il me semble, pour justement quelqu'un comme toi qui en est à son premier rodéo olympique, à son premier cycle avec vraiment l'intention de se rendre. Il me semble que ça devrait être valorisé plus que ça l'est. Puis parce que c'est rare aussi des gars qui... J'imagine, en athlétisme, je sais pas, mais en natation, c'est impensable, des gars à 33 ans qui nagent encore, là.
Mais je pense que ça dépend vraiment des... Tu sais, si on regarde le Summer McIntosh, ouais. C'est quand même très jeune, là, comme ouais. athlète, pour surtout ouais. pour être autant avoir autant de succès. Fait que c'est ouais. sûr, je pense que ça dépend vraiment des sports.
Chez les filles, c'est plus fréquent quand même que le succès arrive vraiment jeune.
Mais, tu sais, en athlétisme, plus on monte en distance, plus c'est réaliste
ouais.
de performer à un âge... T'sais, plus à être plus âgé. Mais tu sais, je pense que oui, tu sais, Chuck, 33 ans sur 1500 mètres, il n'y en avait pas.
Il n'y en a pas beaucoup, là.
Il y en avait, je pense qu'il était peut-être deux.
Ouais.
Au jeu, justement, là, en haut de la trentaine.
C'est fou, hein?
Donc, c'est certain que il fait quelque chose de correct, là.
Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il arrive avec son expérience, puis il peut vous donner des petits cues, là.
Il a bagages, ouais. Il m'avait averti aussi avant la. Avant mon 5000, il m'avait un peu parlé de... Lui, il a fait les 5000 à Eugene en 2022, puis il m'avait parlé un peu comment ça se déroule, puis ça joue du cool, puis il m'avait donné plusieurs conseils qui, finalement, se sont avérés vraiment utiles dans la course, puis en effet, ça joue du cool, puis ça brasse pas mal. Puis c'est ouais. le fait d'avoir quelqu'un, justement, qui l'a vécu avant, qui peut t'en parler, ben c'est sûr que ça l'aide un petit peu, là, c'est
ouais.
certain.
Ouais. Fait que plus spécifiquement... Une semaine, mettons, puis là, t'es pas obligé de dévoiler tous les secrets de la caramilk, là, mais en même temps, je pense pas que tes compétiteurs directs écoutent ça en ce moment. Une semaine standard, mettons, en plein milieu d'un build, là,
ouais.
À quoi ça ressemble?
Je suis pas une personne qui fait énormément de millage. J'ai fait des semaines à peu près à 145 kilos à Flagstaff. Si on,
là, t'étais en camp. Là.
Exactement, ouais. En camp, à Flagstaff, en altitude.
T'as rien d'autre à faire que de courir.
Exactement.
Ouais.
Tu sais, on a des doubles quasiment tous les jours, 14-8, 14 le matin, 8 le PM.
Puis, c'est quoi les intensités, mettons?
Puis, on va avoir deux intensités. Là, ça variait dépendamment des journées qu'on avait accès à la piste.
Ouais.
Il faut descendre en altitude quand on est à Flagstaff. Ouais. On a à peu près 45 minutes à une heure.
Sleep high, train low.
Exactement. Ouais. Donc, on descend soit à Cottonwood ou Sedona. Sedona, c'est 1300 mètres. Puis Cottonwood, je pense que c'est 900 mètres.
Okay.
Donc, tu sais, des intensités, on va... Cette année, on a vraiment fait... J'ai fait un build-up demi, j'ai fait plus de threshold, j'ai fait plus de long. Puis je pense que c'est vraiment avéré payant pour moi. Tu sais, on a vraiment découvert que... On s'en doutait un petit peu, mais on avait vraiment... Pas vraiment exploité cette facette-là d'entraînement avec moi. Puis cette année, on a décidé vraiment de l'exploiter. Puis après le demi, on s'est rendu compte que j'étais quand même un high responder de... Justement, du threshold, puis de faire du long. Donc, à Flagstaff, on a quand même continué à faire ça... Du moins une fois.
Fait que, excuse-moi, t'as réalisé que en t'entraînant, en faisant du threshold pour le demi, t'améliorais aussi ton 5 kilos?
Ouais, exact. Ben, tu sais, il a fallu travailler sur la vitesse à Flagstaff. Ouais. Parce que quand je suis arrivé à Flagstaff, on s'est rendu compte, aïe, je
suis
à bloc à faire une flap.
Ouais.
Puis ça, si je veux faire le standard, faut pas que je sois à bloc à faire une flap.
Ouais.
Fait qu'on a travaillé un petit peu la vitesse, puis c'est le fait d'avoir T-Chuck et GS comme training partner là-bas qui ont une très bonne vitesse de base, mais c'est sûr que ça m'a, tu sais, ça t'entraîne à justement te dépasser.
Ouais.
Mais tu sais, une semaine type, là, j'ai fait, tu sais, comme je disais, une semaine de 145 kilos, 14-8 le matin.
Easy jog?
Easy.
Donc, tout le temps.
Ton en altitude entre 4-20 puis 4 flats, je dirais, dépendamment de la journée puis comment qu'on se sent.
Relativement easy pour les gens qui nous écoutent en ce moment.
Fait que ça, tu sais, vraiment.
Mais toi, ta fréquence cardiaque est à combien quand tu checkes ça?
C'est à peu près à 125.
À 125?
125-130. Ouais, entre 4-4-20.
Fair enough.
Okay. C'est quand même rare que je vais aller en haut de 130. T'sais, mettons la average peut-être à 131.
Fait que zone 1, ultra easy. Là.
Ouais, exact.
Ouais.
Puis moi, j'ai pas peur non plus. Je sais que. Des fois, il faut que je jogue lentement, tu sais, je le sais comme athlète, puis ça me dérange pas des fois de jogger à 4.30 non plus. Puis, tu sais, des fois, je laissais aller Chuck PGS, j'étais comme, moi, je le sens pas aujourd'hui, mes battements sont un petit peu plus hauts qu'à l'habitude. Allez-y, moi, je fais mes affaires. Puis...
L'idée de ce 14-8-là, c'est de mettre du volume en mettant aucun stress sur le système énergétique.
Exact, c'est 14-8, ça se fait super bien. Tu sais, on est habitué aussi à faire ça, puis... C'est pas nécessairement excessivement dur, c'est pas demandant. Puis des fois, on va avoir le mardi, je pense, dépendamment de la journée des intervalles dans la semaine, on avait une muscu.
Ouais.
Après un 14-8, puis deux fois semaine, en fait, de la muscu.
Ouais. Muscu, c'est force max ou comme.
On a des reps max, surtout dans les premiers. Ça marche par bloc, là, surtout dans la première case, c'est vraiment force max. 4 ou 6 RM.
OK.
Tu sais, avec CC, on avait comme fait un plan de Charles Castonguay.
Oui, oui.
Qu'on avait fait un plan muscu, puis, tu sais, je m'en allais en camp, puis je savais que ces exercices-là, je forçais bien, puis je les faisais bien. Fait qu'on a décidé de pas trop changer les exercices.
Ouais, parce qu'ils t'ont regardé les faire, t'as dit ça,
exactement,
c'est bon.
Tu sais, le mouvement, puis le pattern était bien, puis, tu sais, quand tu fais de la muscu, faut aussi bien faire les exercices pour que ça soit payant. Si tu forces, tu croches, puis t'as le bassin qui s'en va d'un bord, puis
c'est
aussi bien de pas le faire, en fait. Fait qu'on a convenu que c'est plus payant pour moi de pas changer la muscu, mais juste changer quelques petits exercices qui étaient pas trop complexes niveau mouvement pour s'assurer qu'à Flagstaff, quand que j'ai pas vraiment de préparateur physique sur place, que je sois capable d'être sharp encore puis de faire bien les exercices.
Ouais.
Puis, mettons des entraînements à type, là, j'ai fait du 3x5 kilos. Threshold, fait que 15-25 en altitude, 15-25, 15 flat, 14-59.
3 x 5 avec quoi en check?
Je pense que c'est une 30.
De rest?
De rest, ouais.
Fait que c'est vraiment threshold. Là. Tu peux pas aller plus vite que ça. Parce que là, c'est...
Je pense que le dernier, j'ai pris mon lactate, j'étais à 4.1.
Okay.
Le dernier.
Ok, toi, ton seuil est à combien?
Au niveau de la mer, je dirais que le seuil, c'est à peu près le pace d'une heure.
Ouais.
Mon demi, c'est 2,57 du kilo. Fait que ça doit être un genre de 2,56 peut-être environ. Là, 2,57,
c'est un peu plus vite que ça. Ouais.
Ouais. Là, je pense que ça dépend. Personnellement, à moins que je m'entraîne pour faire un demi-marathon, je vois pas nécessairement la nécessité d'aller vraiment sub 3 au kilo. Tu sais, je cours à 3 flats, puis je vais avoir des données un petit peu plus basses, mais ça va faire en sorte que je vais être capable de faire une plus grosse quantité de millage justement à cette vitesse-là, puis ça va être plus bénéfique, j'ai l'impression.
Parce que 3 fois, tu me dis que tu t'entraînais, pas. Okay, là, ça, à Flagstaff, c'était un bloc pour un 5 kilos, mais tu faisais quand même un 3 x 5 avec 1 minute 30 de rest.
Ça, c'est vraiment du long. Là.
C'est du stock qu'on dirait que c'est un entraînement de marathon. Là,
exactement. Ouais, c'est spécifique demi, je dirais. Ouais. Quand même un bon entraînement pour faire du demi. Puis, ça, je m'en rappelle. Puis ça, c'était quand même drôle. J'ai fait le premier 5 kilos. Puis on savait pas trop. C'est la première fois que je faisais du long comme ça avec une forme que j'avais en altitude.
Ouais.
Puis fait qu'on était un petit peu conservateur. J'ai fait 15-25 sur le premier. Puis on a pris mon lactate. Puis j'étais à 1,3.
Ah ouais, hein?
Fait que là, on
comme, était comme zone aérobie top. Là.
Fait que là, j'étais comme, ben là, Félix m'a dit, ben là, accélère.
Ouais.
T'as pas le choix. Puis finalement, j'ai accéléré comme à 15-01 ou 15-03. Puis 14-59. Puis.
Ouais.
Tu sais, c'était plus comme les zones
target. Les zones cibles, là, ouais. Ça, c'est quand même un bon petit boost de confiance.
Ouais,
là.
Ben, tu sais, à 3,05, il faut être à 1,3, c'est comme, t'es en forme.
Ouais,
c'est comme un peu, je dirais, quasiment pèse marathon, là.
Ouais.
Tu sais, à 1,3, j'imagine que tu veux être en bas de 2, là.
Ouais.
Je suis pas trop connaissant au niveau marathon, mais je pense que sur un marathon, t'essaies d'être en bas de 2 quand même assez longtemps.
Ouais.
Pour justement pas trop bunker. Ça, c'est un des entraînements que j'ai fait. Sinon, on a fait un 10 fois 600 mètres. En
speed, là.
Exact. C'est une 31, une 32, une 30.
Ouais.
Avec Charles, on a fait un gros training. C'est un training clé, là. Mon dernier training avant de partir en Europe faire les courses, c'était 4 fois 1000 mètres. Une minute, 400. 4 fois. Fait que 1000 mètres.
1000 mètres, une minute, 400. 4 fois ça.
4 fois ça.
Ouais.
Puis ça, c'est vraiment le gros training. Puis j'avais fait des bons trainings. C'est la première fois de ma vie que je m'entraînais avec Charles. Puis que, tu sais, évidemment, il a plus de vitesse que moi.
Ouais.
Tu sais, un gars de 3,32 ou 1500, je fais pas ça. Donc, tu sais, dans la vitesse, c'est clairement qu'il m'allume complètement.
Ouais. Sauf que là, ça reste 4 fois ça.
Mais niveau aérobique, j'étais un petit peu plus en forme que lui.
Ouais.
Fait que là, c'est la première fois que je faisais des trainings avec Charles que j'étais là jusqu'à
que vous étiez capable de rester ensemble.
On pouvait s'alterner justement des reps et tout. Fait que ça, c'est sûr que c'est un boost mental.
Ben oui, Charles,
c'est un excellent athlète. Côte 13-12 sur 5000. Là, le fait d'être avec lui, c'est un boost de confiance aussi. Il y a plein d'affaires qui ont
boosté
la confiance à travers ce camp-là.
Ouais.
Mais revenir au training. Donc, on descend à Cottonwood pour faire l'entraînement. Puis normalement, il n'y a aucun problème d'accès à la piste. T'sais, on n'a jamais eu de problème. On se pointe à la piste, on s'entraîne, puis c'est pas un problème. Puis il y a un journaliste qui est venu pour voir Charles, justement, à la track, puis tout. Le journaliste n'a pas rapport, mais c'est juste parce que c'est un peu une drôle de situation qui s'est passée. On fait notre warm-up, on fait le premier 1000 mètres, on fait un 2,37, ça pèse 5000.
Yep.
2,37, c'est le pace du standard.
Ouais.
On fait 2,37, puis là, il y a un groupe de jeunes qui se pointent sur le terrain, puis sur la piste. Là, on est comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on a commencé notre training clé avant d'aller racer. C'est pas le temps
On s'en va aux Olympiques dans une couple de semaines.
C'est pas le temps de tout saccager ça.
Ouais.
Puis moi, en plus, le 2,37, j'appréhendais vraiment ce workout-là. Je savais que Chuck, c'est son genre de workout qui fait des
coups
de circuit, puis il est en forme. Puis là, je sais comme, il faut que je sois capable de rester avec Chuck au moins jusqu'à la dernière rep. Puis là, je fais le premier, puis ça allait super bien. Je joguais 2,37. J'étais comme, aïe, c'est ma journée.
Ouais.
Ça se
Here
donne.
We go.
Puis là, finalement, on part notre 400, une minute après, puis on se fait arrêter. Finalement, c'était l'école qui avait un événement sur la track, puis c'était la seule journée qu'on n'avait pas accès à la track. Fait que là, je suis comme, aïe. Là, on parle avec Félix. Il n'y a aucune manière qu'on puisse s'entraîner sur cette piste-là. Pis c'est la piste qui est plus basse en altitude. Fait qu'on allait là, justement, parce que c'était un petit peu plus...
Puis là, vous avez déjà un 1000 mètres de fête dans les jambes. C'est comme un peu crissant de faire « on trouve une autre piste ».
Ouais, fait que là, on se gratte un peu le coco. Puis il y a une piste à 1350 mètres qui est à Sedona.
Ouais.
Qu'on n'a pas trop accès à ce moment-là aussi. Puis finalement, on est comme « hey, on va passer par Sedona ». Puis si la piste est libre et la track est ouverte, ben on va aller faire l'entraînement là-bas. Finalement, c'est un petit 20 minutes de route. On s'en va là-bas. La piste est ouverte. On décide justement de faire l'entraînement.
Vous recommencez
là.
À zéro? Est-ce que vous recommencez les 4 reps?
C'est ça, là, Félix nous dit, on va commencer par en faire 3, puis on verra si ça va bien, on va peut-être en faire une 4e. Puis finalement, après notre... on n'a pas refait un warm-up pour complet, on a juste fait un 1006, un peu de tempo, juste pour se remettre dedans. Puis là, il dit, je pense à ça, puis on recommence l'entraînement au complet. Là, je suis comme, aïe.
Après le 1006, je fais la suite, on recommence.
Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, non. Fait que là, on remet les spikes, on se craint. Là, finalement, on a fait 2,35 au 1000 à l'autre track.
Ouais.
Puis là, finalement, on fait un 2,37, puis le 2,37 est pénible.
Ah ouais.
Je suis comme, oh. Ouais. Ça, c'est comme, aïe, aïe. Ça va être tough. Puis là, on fait le 400. Je pense qu'on faisait des 59. 58 au 59. Puis là, finalement, le deuxième 1000, ça va super bien. Je pense qu'on a fait 2,37 à 2,35 à l'autre piste. Ouais. 2,37, 2,34, 2,30, 2,30.
Ah ouais.
Puis avec des 59, 58. Le dernier, je pense que j'avais fait 57.
Puis fait que le 400, dans le fond, c'est... Là, tu fais 1000 pace 5 kilos-ish. Puis là, ouais. Clairement, plus vite que le pace 5
clairement,
kilos.
Pace,
Mais après ça... Une minute, puis là, le 400, c'était quoi le target?
C'était pace, je pense que c'était pace 2000 ou 1500.
OK.
Pace 2000, d'après moi, si on okay. était en 59-58.
Quand je me préparais pour mon essai de temps sur 5 kilos, là, des sets de même, j'en faisais beaucoup, là, puis je trouvais ça vraiment payant.
Ouais,
là.
C'est du gros spécifique ouais. 5000. Que
combien de rest après le 400?
Je pense que c'était peut-être 3 ou 4.
Okay.
Un des deux, tu sais, en altitude, tu essaies de monter un petit peu ton rest parce que c'est quand même assez rough
ouais.
aérobiquement, là, être ouais. en haut. Fait que, tu sais, on n'était pas en full altitude non plus.
Ouais.
Quand même mais 1350, ça
c'est
rentre
beaucoup,
quand,
ça
même
quand même
dedans.
Ouais.
C'est super sec aussi, assez ouais. drôle. Fait que la gorge, elle goûte le sang. Puis... Mais ça, c'est un des gros workouts qu'on a fait.
Mais c'est hot, ça. Puis là, quand ça marche bien, ça te met en confiance
exactement.
En crise des workouts
puis,
comme ça.
Les deux derniers, tu sais, en fait, on s'est alterné à chaque 1000, tu sais, ouais. 500. Puis on a eu l'aide de GS aussi qui était en bicycle. Il faisait un autre training spécifique ouais. steeple le lendemain. Qui est venu en vélo. Puis justement, il nous a comme réhabité, si on veut, là, ouais. en vélo. Fait que ça a fait quand même une bonne différence. Avoir
c'est bon
un vélo, ça.
Ben oui. Mais il faut que le vélo soit bon
ouais,
pour faire
exact.
Son vélo. Là.
Exact. Mais tu sais, le fait que GS, l'expérience à track, il savait ouais. un peu qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Il sait qu'est-ce que ça prend quand lui il court pour avoir un vélo. Il sait quoi
ouais,
faire.
Ouais.
Fait qu'il a été capable de. Justement, de. De faire une job.
Parce que tu peux comme mettre ton cerveau à off, surtout si tu suis quelqu'un. Là.
Exact. Puis, tu sais, les 2,30, c'est rough quand même
mais
à
oui.
sortir tout seul.
Mais oui.
Fait que, tu sais, je pense qu'avoir un bike, ça a fait une bonne différence.
C'est quoi la différence d'avoir. Parce que on est chez Musette ici, le royaume du vélo. Puis en vélo, je veux dire, c'est reconnu que le draft, c'est énorme l'effet du draft. Mais à la vitesse que vous allez, à 2,30 du kilo. Ça va quand même vite, là.
Ouais, ça va.
Ça paraît-tu ou
ben, comme... Je pense que c'est surtout mentalement. J'ai l'impression que ça va
toi,
faire une bonne différence.
Tu penses que ça fait pas de différence dans l'aspiration?
Je pense que ça peut faire une mini différence, mais c'est vraiment pas
mais
aussi
tu t'en rends pas assez
énorme
compte.
Qu'en vélo que
non,
ça
non,
peut
ça, c'est
faire
sûr
des,
que non.
Des gros pourcentage de différence.
Ouais.
Tu sais, on a l'exemple, mettons, de Jacob. La majorité de ses courses, il est en avant,
ouais.
puis il fait des gros chronos, puis il arrive avec des rabais, puis il fait pas nécessairement plus vite. Fait tu sais, je sais pas à quel point... Ça ferait une grosse différence, mais je pense que c'est surtout mentalement que ça peut faire une bonne différence. Ouais. Tu ne poses pas de questions, tu fais juste suivre.
Mettons justement, Jacob Ingebrigtsen au 1500, c'est un peu ça qui s'est passé. Là. Il s'est un peu fait burner parce qu'il est allé en avant. Puis, tu sais, clairement, à la lumière de son record du monde la semaine passée.
C'est lui qui est le plus fit.
C'est lui qui est le plus fit. Il aurait dû gagner le 1500. Il a défoncé le gars. T'sais, à la même compétition, il a défoncé le gars qui a gagné le 1500 aux Olympiques.
Ouais,
il l'a wrecké là, complètement.
Ouais, non, c'est...
Fait que, c'est-tu juste qu'il y a eu une mauvaise journée ou bien c'est
non,
que les gars ils ont économisé un petit peu en arrière?
Il y a clairement l'aspect économie un petit peu. Là. T'sais, ça, c'est certain.
Parce que mettons que c'est 2%. Que...
Ah, ça paraît.
À cette vitesse-là, ça paraît. Ouais. C'est énorme. Là.
Mais je... ben, Jacob, il est pas reconnu pour avoir un gros kick, on s'entend.
Ouais.
Le gars, il est...
Plus gros kick que moi, là.
Que beaucoup de monde, ouais. Mais il a pas le kick le plus déplacé du circuit.
Ouais.
Fait que lui, je pense qu'il avait pas le choix de faire une course rapide parce que sur le bell lap, puis dans le dernier 120 mètres,
ouais.
on l'a vu, c'est pas lui qui a le meilleur...
Non.
Qui a le meilleur finish. Mais c'est lui qui a le meilleur... La
1500,
meilleure endurance.
Là.
C'est lui qui a le... C'est le meilleur, mais il n'y a pas le meilleur kick. Puis je pense
ouais.
qu'il avait juste pas le choix de mettre une course excessivement rapide pour essayer de brûler les gars.
Ouais.
Parce que si c'était une course de 3,35, mais il serait fait potentiellement
ouais.
allumé par pas juste quatre personnes.
Ouais, ouais.
Fait que, tu sais, je pense qu'il n'a pas fait une mauvaise course. Il a essayé de jouer ses cartes, puis ça
n'a juste pas,
ça
marché
a juste
cette
pas fonctionné.
Là.
Mais tu sais, on a vu au 5000.
Ça a bien marché au 5000.
Ça a bien marché. Il est pas allé en avant, il est allé
ouais.
en avant à la fin. Là, mais
ouais.
sur 5000, il y a un gros kick pour un gars de 5000.
C'est ça, exact.
Mais il y a des
gars. Il y a pas un gros kick pour le gars de 1500.
Au 1500, il y en a, puis même une 43, il y en
ouais.
a.
Ouais.
Fait que ça, c'est quand même costaud. Là, versus sur 5000, il n'y a aucun gars qui court une 43. Là,
ouais, c'est ça, je comprends.
Si tu une 48, t'es peut-être une 47, certains gars là, là-dedans, mais Ben, Jacob, hein, ouais. en fait. Là, mais ouais. certains athlètes là, vont faire une 46-47, mais il n'y a pas d'une 43. Fait que je pense que ça paraît là, sur 15 ans, il avait juste pas le choix d'en avant. Pis...
Ouais, je comprends. Je comprends. Fait que juste pour revenir à ta semaine type,
ouais.
Deux entraînements d'intensité par semaine?
Ouais.
That's it.
Deux entraînements. Des fois, on va faire des longs runs avec du tempo un peu ouais. dedans, du genre de 3-20 là-dedans. Pas trop intense. Mais c'est surtout là, deux entraînements spécifiques où, ben, je dirais peut-être une fois au 10 jours, j'avais du threshold.
Ouais.
Un 3x5 kg ou 4x5x3 kg, des choses un peu comme ça. Juste pour garder.
Mais ça, tu le calcules pas dans ton intensité?
Oui, c'est de l'intensité.
OK, c'est ouais. ça. Fait que t'as, mettons, un entraînement. Mettons, si on veut mettre ça sur 7 jours, t'as un entraînement de tempo, un entraînement spécifique sur piste.
Dans le genre, ouais.
Une long run.
Ouais.
Puis that's it. Le pis reste, c'est des jogs easy.
14-8 ou si on est des. T'sais, avant, j'avais beaucoup de jours de repos. T'sais, je prenais une journée de repos par semaine. Là, cette année, j'ai comme pris le. J'ai pris quelques risques. La Flagstaff, j'ai pas pris aucun repos.
Ah ouais.
Puis c'est des fois, normalement, le repos, c'est le jeudi. Des fois, le jeudi, j'allais juste jogger une fois. Faire une petite sortie de 10 kilos easy. Mm-hmm. T'sais, ça te permet de faire un peu plus de millage. Ouais. C'est un petit peu plus facile aussi faire 145 kilos sur 7 jours versus ouais. 6 jours. L'average par jour est un petit peu moins gros. Fait que je pense que c'était surtout ça le t'sais, j'ai fait ça pendant 5 semaines ouais. à Flagstaff puis
ça a passé.
Ouais, ça a passé. Puis l'entraînement, je suis pas arrivé à Flagstaff complètement out of shape. J'étais en ouais. excellente forme aérobique aussi arrivé à Flagstaff. T'sais, j'ai fait mon build-up demi. Puis on a continué après ça à faire du threshold parce qu'on s'est rendu compte que
ça marchait bien.
Puis on se demandait aussi. T'sais, après mon demi, j'ai rencontré Félix, je me suis dit hey, comment j'ai. C'est quoi ma plus grande chance de me classer au jeu?
Ouais.
Puis là, on se grattait le coco, puis on avait mis à l'écart le 5000. T'sais, on s'était dit, sur 5000, c'est quasiment impossible de se classer. Le standard, c'est 13,05.
Ouais.
C'est sûr que tu feras pas ça. Puis, t'sais, on n'était pas négatif, on était quand même réaliste. À ce moment-là, t'sais, 62, c'est excellent, mais ouais. c'est pas proche de 13,05 sur 5000. Ouais, je comprends. Puis on avait pensé au marathon, puis là, on regardait les rankings. Puis clairement, je pense que sur marathon, j'ai un bon potentiel, mais de là, finalement, on a bien fait parce que fallait faire le standard. Absolument le standard pour passer
ouais.
Sur marathon. Puis tu sais, faire 2-8 à son premier marathon,
c'est fou,
je pense pas que c'est réaliste dans mon cas. Puis j'ai pas nécessairement une personne qui fait beaucoup de millage. Fait ouais. Ça aurait été trop de risques. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Puis ouais. Probablement, je ne m'aurais même pas rendu au marathon à faire des semaines de au moins 150 kilos ouais. minimum là, ouais. pour faire du marathon, personnellement. Fait que je pense que...
Puis à 150 kilos, tu n'es pas dans ceux qui en font le plus. Là.
Ah non, c'est même sur track, sur 5000, il y a beaucoup de gars qui font 160, 180, ouais, c'est fou, 200, hein? 220 kilos par semaine. Là. Fait que tu sais, je pense qu'on a bien fait. On s'est juste dit, hey, on verra qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, je suis arrivé à Flagstaff, puis le but, c'était pas nécessairement de me classer au jeu.
Ouais.
C'est juste de faire le meilleur que je pouvais. Puis, à l'automne, qui en ce moment, on s'était dit que j'allais faire mon début sur marathon.
OK. Ce sera pas le cas, là.
Non. Finalement, les plans ont changé, puis. Ouais. pardon. 13,05, c'est un petit peu plus accessible que c'était.
Ouais, ouais.
Puis, non, c'est ça, on reste à la track pour quelques années encore, là.
Quand tu fais. Dernière question sur ton training. Quand tu fais le tempo, t'es-tu en carbone?
Ça arrive que je suis en carbone. Ça dépend vraiment de la vitesse. Mais je dirais 80% je vais être en carbone okay. quand même. Ça fait quand même okay. une grosse différence. Tu sais, comme soulier.
Ça fait une grosse différence sur la performance, mais est-ce que vous l'utilisez plus pour la récup, mettons?
Ben, tu sais, mettons, Charles, lui, il va faire ses longues en flat. Lui, ouais. il dit, moi, il faut que je travaille ma... Proprioception, puis c'est vraiment deux. Tu sais, moi, je suis en carbone, gros super shoes. Ouais. Charles est
sur tes longues, tu te mets en carbone?
Les longues easy, non. Longues easy, je me mets ensuite jog.
Mais les longues avec du tempo?
Les longues avec du tempo, je vais être en carbone.
Okay.
Quasiment 80% du temps au moins.
Parce que ça économise tes jambes?
Exact, ouais. Je pense okay. que c'est juste plus facile. La stride, on dirait qu'elle est plus fluide aussi.
Ouais.
Tu forces moins. T'sais, l'aspect n'est pas nécessairement de pas forcer, mais j'ai l'impression que tu forces moins pour aller au même pace, tu es plus fluide, puis ouais. ça va mieux. Puis
l'objectif de ta long run, c'est l'aérobie principalement.
Exactement.
Fait qu'après ça, que tu mettes tes carbones, ça change pas grand-chose. Là.
Non, exact. Si j'allais 10 secondes plus lent pour le même effort, ça serait pas une.
C'est ça.
Je pense que c'est plus mentalement. T'sais, c'est le fun. à la 320 puis pas vraiment forcer. Puis là, à la 330 puis forcer un peu plus. Ouais. C'est quand même, c'est comme je me mets en carbone. Puis,
ouais.
Avant, j'utilisais beaucoup les produits Nike. Maintenant, là, avec Brooks, c'est l'Hyperion Elite 4 que j'utilise. Puis il y a d'autres produits qui s'en viennent qui sont pas nécessairement sur le marché. Fait que j'ai hâte de.
Cool. J'ai hâte de voir. T'as-tu eu l'occasion d'en essayer une coupe ou?
J'ai pas eu aucune chose qui est pas sur le marché encore, mais ça devrait rentrer bientôt. Donc ça, c'est un avantage aussi de signer avec une brand qui est moins présente en athlétisme. Ils ont certains groupes, ils ont certains athlètes, mais si on se compare avec Nike, comment dire, des milliers d'athlètes, un gars de 13-5 qui fait barely la finale au jeu.
T'es pas sur leur liste.
T'es pas sur la liste de priorité, puis c'est comprenable aussi. Ouais. Ils ont les champions du monde, les gars qui font les records du monde.
Ouais, je comprends.
Fait que, non, c'est ça qui est.
Avant de te laisser partir. Tu dis que tu vas rester sur la piste encore un peu. On ne verra pas sur marathon dans les prochaines années. Il y a de l'argent à faire, ces marathons. Là. Ouais, il y a de l'argent à faire en commandite puis en tout ce que tu veux là, sur des longues distances.
Ouais, c'est clairement que l'argent est sur marathon. Là. Ouais. J'ai des amis comme Rory Linkletter qui était au jeu sur marathon. Ouais. Lui, il me l'a dit, la course amateur, c'est sur la piste. Même si on a des contrats professionnels, la course amateur, c'est sur la piste.
Ouais.
Puis la course professionnelle, c'est sur route parce qu'il y a beaucoup d'argent.
Ouais.
Puis, tu sais, je pense qu'on peut me voir sur marathon peut-être avant les prochains Jeux. Ça va vraiment dépendre. Tu sais, clairement que je veux voir jusqu'à où je peux aller parce que je sens que j'ai peut-être un sub 13 dans mes pattes. Fait que c'est certain que l'objectif principal, là, ça va être essayer d'aller sub 13 dans la prochaine année. Puis, il y a des mondiaux aussi l'an prochain à Tokyo en 2025. Donc, c'est certain que l'objectif, c'est de se classer sur 5000 à ces mondiaux-là. Puis après ça, il y a comme un petit break d'un an avant d'avoir un autre...
Un autre championnat du monde.
Exactement. Fait que, puis il y a les Jeux en 2028.
Ouais.
Donc, ça va vraiment dépendre de mes performances sur piste. Puis moi, je suis attiré par le marathon. Ça me tente d'en faire. Puis je suis motivé par ça. Ma course la plus fun
que j'ai fait. T'as du potentiel aussi?
Je pense que j'ai un bon potentiel aussi. T'sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui court vite sur piste. Finalement, ils courent. La transition sur le marathon se fait pas nécessairement bien. Fait que, tu sais, on sait jamais. Tu sais, c'est une longue course, une course de 2 heures. Donc, tout peut arriver. Mais, tu sais, je pense que ma course la plus fun en carrière, je pense que c'est mon demi à Houston.
Ouais.
C'est là que j'ai eu le plus de fun à courir tout au long de la course. Puis, je pense que la gestion était vraiment bien gérée aussi. Donc, c'est certain que c'est un peu plus le fun aussi. Là, j'ai été... lousse pendant 18 km.
Ouais,
c'est certain que, après ça, c'est un drôle de feeling, puis j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire sur marathon, mais t'es lousse, mais quand c'est le temps d'accélérer, ça accélère pas.
Exact. Moi, les marathons que j'ai faits, c'est comme t'as 35 kilos que t'es bien. Tu sais, t'es bien, puis après ça, le 7 derniers kilos, ben là, tu fais ce que tu peux. Ben, tu finis comme tu peux, là.
Exact. Tu sais, j'étais comme, hey, je suis lousse, je vais tellement finir fort, puis si je suis lousse de même dans le dernier. 2 kilos sur un 5000, je vais finir comme un malade. Mais là, c'était comme aïe aïe.
Ça tourne plus, là.
Je suis vraiment beaucoup plus en effort que j'étais là 2 minutes.
Ouais.
Je suis 2 secondes plus vite par kilo.
Exact.
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Puis, fait que, moi, j'ai vraiment aimé la route. J'aime ça, l'ambiance aussi.
Ouais.
J'ai toujours aimé ça. C'est le même, j'ai commencé aussi l'athlétisme, comme beaucoup, évidemment, là, sur route.
Ouais.
Fait que moi, c'est clairement que je veux faire une bonne partie de ma carrière de haut niveau sur marathon, sur route demi-marathon. Donc c'est
la bonne nouvelle, c'est que tu peux y faire longtemps. Là.
Exact.
Sur marathon, tu peux toffer longtemps. Là,
Fait que je pense que ça va être surtout ça. Puis je fais encore, je fais un demi cet automne aussi. On fait juste. On focus pas nécessairement sur performer à 100% sur le demi, mais juste c'est base training. Tout l'automne, on fait de la base, puis on fait du long, du threshold, puis juste voir la forme est rendue où. Puis j'aime ça aussi. T'sais, Félix est au courant qu'il me tord pas un bras pour.
Ouais, c'est ça, je comprends.
Il est venu avec l'option de faire un demi-marathon, puis tout de suite, j'étais comme aïe, yes. C'est quand qu'on commence. Je suis motivé par la route, donc c'est certain qu'on va me voir sur marathon. Quand, je peux pas nécessairement dire ça.
Puis le 10 kilos, lui?
Sur piste? J'en ai parlé avec Phil. T'sais, pour se lasser pour les mondiaux sur 10 000, c'est top 27 au monde. Le standard, c'est 27.
Parce qu'il n'y a pas de prélim. Fait qu'ils prennent juste... Il y a une
exact, finale directe. Ouais. Fait que c'est certain que... T'sais, dans le top 27 au monde, je suis 27e présentement, si on prend les trois par pays, là, qui est comme le système de sélection pour les championnats majeurs, je suis 27e sur 5000. Donc, c'est faisable, mais sur 10 000, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dur quand même. Puis le standard de 27-0-0, c'est comme...
Ça roule.
C'est costaud quand même. T'sais, Chuck, c'est un excellent athlète. T'sais, on a un niveau... qui est quand même similaire sur 5000. Je suis peut-être un petit peu meilleur que lui sur 5000, mais il a pas mal plus de vitesse que moi. T'sais, il a couru 27-54 ou 51.
Ouais. T'es loin.
Je pense pas que je mets encore une minute à Charles sur 10 000. Ouais. T'as un 27-40, je pense que ça pourrait peut-être être réaliste dans mon cas, mais encore là, je suis à 40 secondes.
À 40 secondes
c'est
du
énorme,
standard.
Là.
Ouais,
donc, ouais. On va peut-être en faire un juste pour tester la forme encore une fois. Puis, mais tu sais, sur 10 000, les opportunités de rouler sur 5 000 sont minces, mais sont encore plus minces. Sur 10 000,
ouais,
il y en
comprends.
A une ou deux. Fait que tu sais, faut que tu arrives prêt, en santé. Puis les 10 000 que j'ai faites dans le passé, ça a toujours mal été. Je pense que j'étais pas nécessairement prêt. Puis on pensait que j'étais prêt. Puis finalement, on se rend compte que j'étais pas prêt. Puis on dirait que c'est un peu tout le temps mal placé dans le calendrier. Il y a toujours des choses un petit peu plus intéressantes à faire. Que justement, aller, je parle de c'est Dutton en Californie, en fond, l'événement, puis c'est au mois de mars. Puis là, il y a comme des courses indoor, il y a les championnats du monde indoor aussi. Fait que, comme je pense que c'est potentiellement l'année que j'aurais eu le plus de chance de me rapprocher du standard, mais c'est aussi, j'ai l'impression, l'année que ça fit le moins.
Je Donc, comprends.
On va voir qu'est-ce que. Mais je fais le championnat québécois de 10 kilos sur route le 20 octobre, si je me trompe pas. Donc, tu sais, on le voit un peu comme un entraînement encore, puis ça va peut-être être le but, c'est faire du pace demi dedans, puis jouer un peu avec le pace pour faire un entraînement, justement.
Ouais.
Puis c'est le fun aussi courir à la maison. Puis
tout le temps.
C'est le fun un peu faire des événements un petit peu moins sérieux, là,
ouais,
si
ben
on
oui,
veut.
Ben oui.
Avoir du fun, puis voir la communauté aussi de course à pied du Québec, c'est tout le temps fun de voir le monde qui t'encourage à travers ta carrière. Ben, c'est le fun de les voir, justement, puis mettre un visage sur les personnes.
Ouais. Très cool, man! On va suivre la suite des choses. Merci beaucoup pour avoir fait ça.
Merci à toi de m'avoir invité.
Yes.